Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est plus mes pinceaux.
Vous l'aurez noté, chers auditrices et auditeurs, on n'a pas reconnu la suave voix de notre ami l'Irlandais, puisqu'il n'est pas là. Et puis on s'était dit quand même qu'avant de clôturer cette saison un peu bizarre de plus mes pinceaux, on allait quand même en faire une dernière.
Mais il est où en fait?
Et ben,
il n'était pas dans le Loir-et-Cher.
Alors il a quitté le Loir-et-Cher. Aux dernières nouvelles, il s'approcherait du Périgord noir.
Ah, c'est ça. C'est beau.
Il va sûrement revenir avec des sabots de bouée, mais il a l'air de bien s'éclater en tout cas. Et donc du coup, on lui souhaite encore, s'il peut nous écouter un jour, bonne fin de périple. Il en a encore jusqu'en septembre, qu'il en profite bien. Mais nous, du coup, ce soir, on a profité. J'ai profité pour embêter mon ami Laurent. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Puisque Laurent Lefebvre et moi, nous avons décidé de prendre en sandwich une belle brochette d'invités, puisque nous recevons aujourd'hui Monsieur Joub. Bonjour.
Bonjour.
Et Monsieur Nicobi.
Hello.
Voilà, alors il y a des gens qui vont se dire « Encore, c'est toujours les mêmes, et tout. Ils
jamais,
sont paillotés,
jamais on a pensé
ils
ça.
Payent. » Peut-être qu'il, alors ça on ne le dira pas, si on est payé ou pas, c'est pas, il y a toujours la présomption d'innocence de toute façon, mais il y a aussi le fait qu'ils ont ces gens-là, on n'y peut rien, si même se nourrir de substances, comment dirais-je, légales ou illicites, eh bien ils produisent. Ils font des trucs, ne serait-ce que devant les yeux, j'ai déjà deux ouvrages où M. Njou et Nicobi sont ensemble, Envie et Maroni, les gens du fleuve, sur lequel on reviendra tout à l'heure, paru chez aux éditions Futuro, et Envie chez Comics Initiative. Mais Monsieur Nicobi a été aussi présent dans les bacs en compagnie de Monsieur Weber pour Cache-Cache Mortel à Bréa. C'est sorti quand?
C'est sorti en avril également.
Voilà. Et enfin, un ouvrage sur lequel je voulais revenir, c'est La Guerre, paru lui aussi chez Comics Initiative. Votre vision du confinement. Et il y a aussi, Laurent, un autre ouvrage qu'on a oublié, qu'on a perdu, qui s'appelle...
Le Comte.
Oui, dans comment ça s'appelle ?
Le Comte fait son cinéma, bien sûr.
Le Comte fait son cinéma.
Voilà, où Monsieur Joub et Nicobi, vous avez été... alors moi, ça m'a énormément impressionné, parce que vous avez suivi Monsieur Le Comte dans sa vie de tous les jours, prix professionnel de tous les jours. On vous voit à une table et tout, avec tous les... Ouais, un truc assez intimidant. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Bref, vous avez de l'actualité, dont on n'a même plus le temps de suivre, donc c'est pour ça que de temps en temps, c'est bien de faire un bilan. Voilà.
Voilà, c'est magnifique tout ça, des invités. Alors en grande quantité en plus, vous avez profité que Erwan Le Rouquin soit pas là pour...
Alors pas profiter, c'est lui qui m'a dit, si tu fais pas une émission, si tu fais pas plus d'une émission pendant que je suis pas là, je te vire. Donc, pas trop le choix.
Et donc c'est parfait. Bien.
Et je remercie encore une fois Laurent de me donner un coup de main.
Sur cette co-animation, vous voulez qu'on commence avec un peu de musique?
Ouais, et puis après on va laisser la parole, je vais laisser la parole à Laurent pour... On a structuré tout ça.
Oh là là, ça a été bossé, ouais. Cette émission a été préparée.
Toujours.
Oh mon Dieu.
Tout est...
Ooh.
Mais où donc votre amour est-il passé, Roger,
mais
suprêmes, où est-il passé, Diana te demande.
Voilà, un truc un peu ancien, tout ça aussi pour nous replonger un peu dans l'ancien, et on s'était dit avec... ne me regardez pas comme ça, je suis comme dans l'ancien, ben oui, vous aussi, vous avez vieilli, je vous ferai dire.
J'ai embelli.
À peine. Hein,
un peu, ouais, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment
non, c'est vrai, il n'a pas changé. Hein. Monsieur Nicobi ne change pas.
Non, puis son côté de mettre des shorts sous prétexte qu'on est le 1er juillet, bah, du coup, pouf pouf.
Il a l'air d'un garnement.
Ouais.
Je t'ai vu très jeune.
Et donc, avec Laurent, on s'était dit, tiens, puisque quitte à les avoir tous les deux ensemble, en discutant, en préparant l'émission, on s'était dit, oh, ce serait peut-être bien aussi pour ceux qui ne connaîtraient pas, s'il en reste encore, en tout cas auprès des auditeurs ou plus généralement, des gens qui ne connaissent pas messieurs Joub et Nicobi, bah, ça serait l'occasion de rappeler quelques fondamentaux. Alors Laurent, comment, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, je ne sais pas moi, de Rennes-Ville, on parle de Rennes-Ville Rock, est-ce qu'à Rennes aussi il y a une espèce d'école de la BD avec des auteurs Rennes et des environs, on va dire, on va élargir, on va pas limiter qu'à Rennes, en tout cas en Bretagne, une espèce de génération de BD qui se développe, Laurent.
Ouais, qui se développe.
Ou qui s'entretient.
On a l'habitude de dire que le premier, le Christophe Colomb de la BD, c'est Jean-Claude Fournier, Spirou, les années 70, qui habitait à Rennes à l'époque. Et puis il y a eu quelques générations qui ont suivi. Et puis j'ai essayé de faire court. Et puis Joub faisait partie d'un des deux ateliers, un peu les deux bandes rivales, les Sharks, comme on disait là dans West Side Story. Il y avait un peu deux bandes, j'ai l'impression. Il y avait la bande Hatchoum dans Rennes Sud avec Stéphane Duval, Jérôme Le Reculé, etc. Et de l'autre côté, il y avait une autre équipe avec Joub, mais aussi Étienne Davodo à l'époque, Fred Simon, qui était l'atelier Absurde. Et tout ça, c'est une génération de gens nés dans les années 60. 60-70.
Fin 60. Enfin, en tout cas, ça, c'était début des années 90, ces ateliers-là.
Alors, ces ateliers-là, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Et comment dire, donc, Nicobi, un petit peu plus jeune, un enfant de...
Franchement plus jeune,
ouais. Glorieux, de milieu des années 70-76, à Rennes aussi. Élève chez Gégé, lui-même assistant de Fournier. Et puis, c'est dans... Voilà, je crois que c'est dans les locaux de Quai des Bulles, le festival BD, que vous êtes à Coquiner, que vous avez commencé.
On s'est rencontrés au bar du mardi, qui était un rendez-vous qu'on s'était donné, qu'on va peut-être remettre en place d'ailleurs. Voilà, le mardi, je ne sais plus à quel bar, de 10 à 12,
si on
venait, normalement, il y avait des dessinateurs BD. Donc moi, c'est Stéphane Duval qui m'avait invité à y passer, et c'est là, moi, que j'ai rencontré Nico. Puis après, je l'ai débauché de partout.
C'est vrai, je confirme. Ouais, il y avait une petite communauté d'auteurs de BD à Rennes qui se réunissait toutes les semaines comme ça, et c'était très vivifiant.
Ouais, parce que c'est quand même, on parlait de ville rock, mais la différence entre le rock et la BD, c'est que c'est un métier de solitaire. On est quand même chez nous, isolé, et avoir une occasion, et c'est vrai qu'il y a eu ce truc du mardi matin, la part des anges, si je me souviens bien. Et bref, ensuite, il y a Quai des Bulles, il y a les rencontres Quai des Bulles, vous êtes tous les deux des membres depuis au moins 15 ans. Et puis, pas mal de bouquins faits ensemble à quatre mains, parce que vous êtes tous les deux à la fois scénaristes et dessinateurs. Donc, c'était aussi une envie de faire des bouquins à deux. Il y a eu Dans l'atelier de Fournier. Il y a eu Les années bêtes et méchantes autour de le passage de vie exemplaire de Daniel Fuchs au sein de Harakiri. Donc, toute cette expérience de vie-là, les romans photos, Choron, etc.
Vous étiez ensemble aussi pour celui sur Bretéché.
Non. Le pilote ?
Ouais.
Non, non, je fais une petite infidélité.
Ouais, vous n'êtes pas tout à fait...
Belle intervention.
Ça valait le coup de m'interrompre. qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Le manuel de la jungle, on va en reparler, parce que ça nous amène déjà à la Guyane où M. Joub est parti s'installer pendant quelques années et qui a été le premier de plusieurs voyages de nombreux auteurs BD, dont Nicobi évidemment, et qui va être au cœur d'un des bouquins dont on va parler là, qui est donc Maroni, les gens du fleuve, qui est la nouveauté au printemps de cette année.
Tout à fait.
Et puis je te passe la parole.
Ah non, non, parce que comme on va peut-être aussi laisser la parole à nos invités du coup, parce qu'à part dire tout à fait et de hocher de la tête jusqu'à
vous
présent,
si
on ne les a guère entendus. Donc Monsieur Joub, on va commencer par vous parce que vous êtes le plus ancien. Comment Comment ça vous est venu justement et comment ça s'est développé cette collaboration tous les deux? Parce qu'il y a différents types d'ouvrages, mais c'est quand même assez dans le documentaire, je dirais, moi, dans l'enquête, par exemple, si on parle du dernier bouquin autour de Le Comte fait son cinéma.
Ouais, avec Nico, ma collaboration avec Nico.
Ouais.
Donc on s'est rencontrés à ses ateliers, je l'ai débauché sur Quai des Bulles, on a cette passion de la BD en commun, etc. Et très rapidement, on a trouvé qu'on était assez complémentaires dans ce qu'on voulait faire. Et puis à l'époque, on voulait bouffer le monde, donc on voulait gagner du pognon.
On voulait bouffer tout court, en fait.
Ouais, on voulait bouffer. Et donc on s'est installé à Becherel en atelier pour... déjà, c'était plus pratique qu'à Rennes pour nous deux, parce qu'on est plus de la campagne. Et puis on menait nos projets en parallèle. On a commencé à faire des projets de publicité, tout ça, régulièrement. Donc ça, c'était pas mal. On s'est rendu compte qu'on était assez efficace dans le travail ensemble. Et puis, évidemment, à être tous les jours ensemble, bah, progressivement, les projets éditoriaux se sont développés. Et puis le premier, bah, ça a dû être Daniel, hein, sur les années Harakiri. Donc Daniel Fuchs, qui est aussi à Quai des Bulles, et qui nous parlait régulièrement de ses anecdotes chez Harakiri, etc. Donc voilà, là, on a commencé à se dire qu'il y avait un projet là, qu'on pouvait mener. Donc c'était effectivement un projet de témoignage, ce qu'on aime bien faire. Donc ce qu'on a mené après avec Fournier, avec le Manuel de la Jungle, et puis avec le Patrice Lecomte, qu'on vient de sortir aussi pas très longtemps. Donc ça, c'est une veine qu'on a développée. Puis à côté de ça, on a fait aussi quelques albums jeunesse, etc. On doit avoir une dizaine de bouquins en collaboration.
Et comment ça s'est fait, la répartition du travail? Tout naturellement, parce que du coup, vous êtes plus dans le scénario et Nicobi dans le
dessin. Ça dépend. Tout à fait juste. En Guyane, on en a fait deux. Je te coupe toute la parole, hein, Nico, il veut t'entendre, mais... on a fait deux albums jeunesse où là c'est moi qui
il dessine. Il dort votre ami un petit peu là?
Non, il est loquace, il va parler, mais ça dépend des projets. En fait, on co-scénarise tout le temps ensemble, et après, suivant le type de projet, je dessine ou il dessine, il fait la couleur ou c'est moi, enfin voilà, après on se répartit les tâches. C'est le côté efficace qu'on avait développé sur les projets de publicité, d'être en fait... On veut gagner toujours le maximum, le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est ça le sens de notre collaboration.
Monsieur Nicobi, vous rejoignez Monsieur Joub sur son analyse et sur la façon que vous avez de travailler?
Eh bien oui, tout à fait. Et en fait, ce qu'on fait ensemble avec Joub, c'est vachement des bouquins d'envie aussi. C'est, enfin, ceux qu'on a cités là, c'est vraiment des bouquins de débiles mentaux de la BD, quoi. C'est-à-dire, on est super passionné par un sujet au point de vouloir un peu évangéliser nos lecteurs et puis faire des livres qu'on aurait envie de lire. Donc ces bouquins découlent de là. On a fait aussi des bouquins en Guyane qui découlent du fait d'être allé en Guyane, d'avoir eu l'occasion de découvrir cette merveilleuse région et l'envie de raconter des trucs un peu différemment dans un contexte différent. On a fait notamment plusieurs livres qui sont disponibles que en Guyane, qu'on ne trouve pas du tout en métropole, donc ça, c'est assez marrant. Moi, je le vis un peu à chaque fois comme des parenthèses par rapport aux autres livres que je peux faire, quoi.
Guyane, région que vous adorez, même si d'extérieur, pour un petit vilotin comme moi, la Guyane, c'est marrant. C'est... Ouh, il y a encore des grosses bêtes qui vont me piquer, vous savez.
C'est... Oui, enfin, j'aurais quand même faire remarquer que vous avez quand même une bonne partie de votre famille qui se situe dans les Antilles.
Ouais,
c'est quand même pas très très éloigné, c'est dans les Caraïbes, tout
c'est
ça.
C'est pas la Guyane, hein. Les Antilles, ah ouais, je pense que les Antilles et la Guyane, ça n'a strictement rien à voir.
C'est dans le même coin.
La population peut-être, mais la Guyane, c'est quand même...
Quoi, vous avez peur des araignées et des serpents, c'est ça?
Pas seulement, il n'y a pas que des araignées, des serpents, d'ailleurs sûrement des maladies, il y a des orpailleurs, comment dirais-je, des tas de bestioles, parfois sur deux pattes, qui sont encore parfois sûrement les plus dangereuses, les plus dangereuses, on reviendra là-dessus. Et bon, on va s'écouter un petit lix, tiens.
J'ai soif.
The Members, Sound of the Suburbs. J'ai soif.
This is the sound of the summers. Every lousy Monday morning.
Un choix musical issu de la culture de Roger Fringant, alias aussi Roger Fringant des Grignoux, n'est-ce pas, puisque on est dans Plume et Pinceau, on n'est pas dans les Grignoux. Et c'était The Mumbers, Sound of the Suburb, mais je crois qu'on a un peu perdu Roger, qui ne veut plus parler. Il a dit, tiens, maintenant c'est à Monsieur Lefebvre d'intervenir pour continuer cette émission.
Pour embrayer sur un tronc avant d'aborder la jungle qui me fait stresser, c'est pour ça, d'ailleurs ça me donnait soif déjà, rien que de regarder la couverture. On peut plus manger des poissons, enfin bref, on va revenir à... C'est sorti un peu avant quand même, Le Comte fait son cinéma.
J'espérais que M. Laurent nous pose lui-même la question, ouais. Mais oui, c'est sorti avant.
Ah. J'allais le faire, je raye la question 4. C'était en avant-première à Quai des Bulles, donc en octobre cette année, en présence de M. Patrice Lecomte lui-même qui est venu à Saint-Malo. Et justement, comment ça s'est passé la rencontre? Parce que c'est un livre qui revient sur qu'est-ce qui se passe avant qu'un film sorte. Toutes les questionnements, les on y va, on n'y va pas, on a le financement et toutes ces choses dont on ignore tout, y compris quand on s'appelle Monsieur Patrice Lecomte, on se rend compte qu'un film, rien coule de source. Racontez-nous un petit peu ça, la genèse, la rencontre, le projet.
Eh ben ouais, c'était notre grande découverte, en effet. Mais alors avant d'arriver là, j'ai fait une histoire pour la revue dessinée. La revue dessinée a une rubrique comme ça,
donc
revue de bande dessinée, de reportage en bande dessinée bien connue. Il y a une petite rubrique cinéma où est donnée la liberté à un auteur de faire une petite histoire sur un film qui l'a touché. Donc moi j'avais fait une histoire sur Le mari de la coiffeuse. Et j'ai eu l'occasion de la montrer à Patrice Lecomte. Et donc, c'est que par ce biais-là qu'on a fait connaissance. Et assez naturellement, finalement, par la suite, a émergé cette envie de faire un bouquin qui raconterait la genèse d'un film. En fait, on n'avait pas très envie de faire un making-of. On avait l'impression que ça s'était déjà vu plusieurs fois. Mais il y avait toute cette partie un peu d'administratif qui préexiste au film, qui nous intriguait avec Joub. Et il a été très très facile à convaincre. Patrice, il s'est laissé embarquer dans notre histoire. En fait, je pense qu'il ne voyait pas trop où on voulait en venir, mais il avait envie de se prêter à l'exercice. Et il nous a ouvert les portes pour l'accompagner sur la préparation de ceux, voire de ces films, parce qu'en fait, ce qu'on a découvert, c'est que les films tombaient à l'eau les uns après les autres, quoi. Alors que, enfin, moi, je l'imaginais vraiment faire ces films un peu les doigts dans le nez, arriver avec une vague idée sur un post-it et que toutes les portes s'ouvraient aussi pour lui, ce qui n'était pas tout à fait le cas.
Même s'il donne l'impression, quand on lit votre ouvrage, d'être l'impression touche à tout, vous-même, vous aviez l'impression de découvrir du jour au lendemain, ah, je ne vous avais pas dit, j'avais un projet avec tel acteur, etc. On a l'impression qu'il saute du coq à l'âne un peu.
Il a toujours des projets en cours, mais je pense que c'est justement parce qu'il doit savoir que tout ne va pas au bout, qu'il a toujours
un coup d'avance.
Plusieurs, ouais, et du coup, ça peut être des émissions télé, des pièces de théâtre, un roman, et puis même sur ses films, ses productions de films, là, qui relancent très rapidement, donc on avait toujours un coup de retard, oui, ça c'est sûr. Il fallait qu'on se remette à jour très très vite sur ce qu'il nous avait dit la fois précédente. Et puis donc on l'a accompagné jusqu'au premier jour du tournage où là, du coup, effectivement, on n'avait pas trop envie de raconter un tournage, mais plutôt tout ce qui s'était passé avant. Mmh. Les coulisses, ça nous intéresse toujours plus que le produit final.
Alors moi, ce qui m'a quand même beaucoup impressionné, c'est la facilité avec laquelle il a accordé que vous soyez là tout le temps dans ses pattes.
Ouais, c'est vrai qu'il a joué le jeu tout de suite. Il vient de la bande dessinée, hein, ce qu'on sait pas.
Oui, ça
souvent.
C'est vrai, avec Gazul.
Peut-être que ça l'a, ouais, avec Gazul, peut-être que ça l'a mis un peu en confiance, mais je crois surtout que c'est dans son caractère de se prêter facilement à ce genre d'exercice.
Ah, ouais, vous pensez que tous les metteurs en scène et réalisateurs, c'est peut-être pas aussi cool, aussi facile d'accès ?
Bah, là, on avait la porte d'entrée, et puis justement, le jour où on ne se sentait pas à notre place, c'était vraiment sur le plateau de tournage, par exemple. Mmh. La seule petite expérience qu'on a eue, parce que là, il y a énormément de monde, et tout le monde a un poste très défini, etc. Et comme nous, on était juste là en tant qu'observateurs, il y a quelques moments, on se disait qu'effectivement, ce n'était pas forcément là le lieu le plus facile pour s'intégrer. Alors que sur tout le processus avant, ben, voilà, on posait les questions, ils répondaient, ou on était témoin de... Enfin, c'était moins... Il y avait moins ces enjeux financiers ou de poste que sur un tournage où vraiment tout le monde a de l'éclairagiste au décor. Il n'y a que les scripts. Non, les coiffeuses, je ne sais plus. Il y avait deux nanas là, qui semblaient être un peu aussi désemparées que nous. Mais elles, au moins, de temps en temps, une fois par... 5 minutes par heure, elles avaient quand même leur petite tâche à exécuter. Nous, voilà, là, à ce moment-là, on était un peu en dehors du truc. Mais sinon, il a été archi dispo. Hein. C'était
ouais,
vraiment super sympa.
D'une gentillesse exquise, ouais. Il apparaît. Ouais, c'est étonnant. Laurent, vous vouliez...
Il y a quelques BD sur des tournages. Ouais, moi, je pense à ce qu'a fait Mathieu Sapin avec le film sur Gainsbourg ou avec Depardieu plus récemment. Mais effectivement, là, on se passe après, c'est-à-dire on est pendant le tournage. Là, spécifiquement, c'est avant. Mais ce qu'il y a de commun, c'est que vous dessinez dedans. C'est important de le préciser. C'est intéressant. C'est-à-dire que par vos yeux, nous aussi, on fait les petites souris à l'intérieur. Mais le petit plus par rapport à d'autres bandes dessinées qui, elles, vont raconter des tournages, c'est que le film est acté. Là, on lit un livre. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le réalisateur lui-même et vous-même, on ne sait pas et on espère qu'il y a un film, mais quelque part l'histoire elle est quand même là, et quand bien même à la fin on nous dirait bah non, ça se fait pas, on doit faire le deuil d'un projet, passer à un autre, ce qui est aussi notre lot à nous, auteurs BD, mais avec des échelles économiques avec 2 zéros derrière ou 3 quand c'est du cinéma, il y a ce côté on ne connaît pas la fin, il y a vraiment cet aspect là qui aussi rajoute un intérêt.
Ça doit être hyper frustrant. Il doit y avoir...
Ah, pour eux, ça doit être terrible. Ouais. Tu t'investis sur un projet et en plus, ça a vraiment l'air... De toute façon, tout le monde nous dit ça, que c'est une habitude. Quand un auteur de BD a un scénario ou un livre qui va être adapté au cinéma, etc., on n'y croit pas beaucoup parce que ça aboutit...
une fois sûr.
Mais on comprend, là, en voyant justement... Parce que ça peut être au niveau des financements, au niveau de la disponibilité des acteurs.
Il y a trop de paramètres.
La guerre en Ukraine, vous savez quand même qu'en Ukraine, exemple, c'est là qu'on tournait le plus de films jusqu'à présent, et du coup, ça a doublé. Et est-ce que c'est ça aussi qui explique pourquoi nombre, par exemple, je prends un de vos bouquins dont quelqu'un va acheter les droits, un réalisateur, et puis il n'en fera jamais rien, il va le revendre encore. C'est ce qui
explique ça. Non, pas forcément, mais il va acquérir les droits, après il va développer le projet. Alors, si ça s'arrête tout de suite, il n'a pas les financements, ça plante. Mais si ça va à l'étape d'après, il y a une écriture de scénario. Alors, ces gens-là touchent toujours de l'argent à chaque étape, en revanche, hein, ils arrivent à se faire payer. Donc voilà, ça, et puis si par hasard il y a tout qui se cale bien, le film va sortir. Mais il y a tellement de paramètres avant. C'est ça qui est génial en BD. On a affaire à un éditeur qui nous dit oui ou non. Une fois que le contrat est signé, on y va. Et puis il y a presque 100% de chances que le livre sorte. Donc au moins, c'est vrai que les projets sur lesquels nous on s'investit, ils voient le jour. En cinéma, ouais, ça doit être très 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 frustrant de pas voir les projets aboutir. En revanche, ils ont l'air d'avoir l'habitude de ça, quoi.
C'est une économie qui repose là-dessus, hein, de lancer plein de trucs et puis tout en sachant qu'il y en a très peu qui vont aboutir.
Alors ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, du coup, vous disiez il y avait des gens qui étaient quand même payés, les scénaristes par exemple, vont plancher, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas payés, mais d'où vient cet argent, puisqu'il n'y a pas de revenus, du coup, au bout du compte, c'est étonnant.
Parce que le monde du cinéma est très structuré, donc il y a des étapes, il y a des financements à chaque fois. Ouais. Le plus lourd a l'air d'être de monter la prod définitive, c'est-à-dire avec les chefs d'écho, avec les acteurs, avec là où ça va coûter très cher pendant très peu de temps.
Bah, c'est ce qu'on a
mais les étapes au préalable, d'écriture de scénario, de montage de dossiers, etc. Là, il y a des financements qui ne doivent pas être si hauts que ça par rapport au plateau où il y a tous ces.
Et c'est peut-être pas les scénaristes qui sont les mieux payés non plus.
Alors, je sais pas, on n'a pas, réussi à décrypter à fond comment ça marche, mais il y a quand même, voilà, une structure économique qui est faite qui permet à tout le monde de gagner son.
Tu peux très bien être scénariste, d'écrire, je sais pas, moi, 3, 4, 5 scénarios pour des films qui n'auront jamais.
Ah, mais c'est très, très, très court.
C'est assez court.
Ouais. Et même des versions de scénarios qui sont version 3, 4, 5. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, ça permet des réécritures, d'aboutir à un projet assez loin, assez confortablement. Mais pour nous, c'est vraiment un monde différent parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. C'est vrai. Alors, que nos petites idées débiles qu'on a avec Nico, on a à peu près réussi à les aboutir toutes.
Globalement, ouais.
On est dans le cinéma est mort ou dans Plume et Pinceau, Roger là,
je confonds, les deux, là. Mais dans le cinéma est mort, ils n'auront jamais une interview de qualité comme ça.
C'est le principe de recherche et développement. De toute façon, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, les bagnoles, n'importe quoi, on recherche, on ne va pas aboutir tout. Mais il faut quand même préciser peut-être aux ceux qui nous écoutent que le livre, ça va aussi beaucoup parler de comment on met en place des décors, c'est tout l'aspect artisanal. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on réduise ça à une histoire de chiffres et de valider ou pas. Il y a quand même tout un paquet de réunions avec des artisans impliqués, un maître d'œuvre, chef d'orchestre, qui, à mon avis, avait aussi envie de vous voir pour peut-être aussi témoigner de cet aspect-là un peu méconnu. C'est un peu l'enfant dont on ne voit pas encore le ventre s'arrondir de la maman. C'est tout ce que, et pourtant, il existe déjà et il ne va peut-être pas aboutir, mais c'est leur lot et il n'y a pas peut-être tant d'occasions que ça, à part peut-être La Nuit américaine de Truffaut, qu'on voit ce moment-là. Et en BD, en tout cas, je ne vois pas d'autres bouquins que Le Comte fait son cinéma.
Et du coup, il l'a pris comment, le livre? Enfin, vous en parlez un peu, parce que vous lui avez...
Est-ce qu'il l'a lu, déjà?
Oui, il l'a lu. Alors, c'est quelqu'un de très disponible et de très poli. Donc, de toute façon, quoi qu'on lui envoie, etc., il fait toujours un mail de retour. Donc, son retour était positif. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est qu'il l'a donné à certains de ses amis qui ont découvert, en fait, son métier. Donc, là, je trouvais qu'on avait vraiment bien bossé par rapport à notre intention de départ, de montrer un petit peu ces coulisses-là. Donc, pour nous, de toute façon, c'était plutôt une réussite à ce niveau-là.
Et un monsieur d'une modestie rare, puisque au début, quand vous le branchez là-dessus, il se gratte la tête et je me demande bien qui ça peut intéresser.
Oui, il y a un peu de posture, je pense, de sa part.
Vous
aussi.
Croyez
chaque bouquin qu'on a fait sur des personnages comme ça, ils nous ont tous fait cette réponse.
C'est la première réponse systématique.
Hein. Ah. Ça dure plus ou moins longtemps. Ma vie va intéresser qui?
Entre 2 minutes et 15 jours, mais en général, ils changent d'avis rapidement.
Et en même temps, c'est assez sain de se poser légitimement la question, que soit le bouquin qu'on fait. Ouais. C'est, moi, ça me branche, mais est-ce que ça va brancher quelqu'un d'autre? Parce que la personne qui va nous dire oui ou non, que ce soit un producteur ou un éditeur, doit se poser cette question-là. Donc je pense que si, c'est aussi un réflexe professionnel de se poser cette question-là.
On s'écoute un petit Dix?
Ah.
Comme ça?
Night and gonna step onto a snail, I know. It is disgusting, but it is just how it feels when you're not anymore in control of your bad habits. When you're not anymore in control of your bad habits, and there is no way out. Yes, there is a way out. It is just not easy to get out of this cold. Going one way, no space to elude, no place, no food, no interlude. And I'm running, 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 there's no reason, just running. I push myself from the one to the one, and then back to the one. Never waste time by choosing which one to go. Just follow the line, the sign that should be fine. And I'm touching me, I am touching myself. I try to feel anything, I can't feel it at all. And I don't listen anymore to the voice in my brain. I don't listen anymore to the screaming of my brain. It's not the taste, taste, taste. Check on one, you are like, don't miss the fake thing happening around you. Found you crying on the floor. I want more, 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 cause I like to suffer and I like to suffer. Suffer and I like to 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 suffer and I. They look left, look right, turn around, don't smile. These are just sweaty, petty faces which squeeze past me. I try not to move, but they move me. Please stop it, I want to get out of here. This future is long gone, I am newborn and awake. I can do it, whatever it is, just do it. The sound of it, the sweaty melody is turning me on. I want to listen, but I can't stop, cause I'm still on the run. So I go on and test this fight, but some things have to be done. Cause when I think about the places, I am already gone. They want me fast, I want them faster, there is no time to rest. I have to come with you, no air, I cannot breathe. It's getting tight, 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 but there was a limit for this. We coming fast, I can't be younger, don't you know that we live? I'm under pressure, body strain, nervous threats, I'm on my way. Mask with a body voice, just in suit. They wanna be big and I don't care about you. I ever look around, nobody is looking around. Only madam news teens, laughing with a bottle of smile. I look into their eyes, their child, their lives are bad. You grown up with this, ego shooter set. It does sound like this and it will turn us all off. Only brain is competition for love, but heart is decision. Takes the sense of love for being turned. Nothing to project us into a stupid evil kind of boring shell of piece of shit. Is this what we want? Is this really what we want? Is this what we're proud of? This is not the way I wanted to be born in. This is not the paradise they taught me I would live in. Is this our generation? Is this our goddamn pride? Is this our goddamn pride?
Sparkling, encore un morceau de la sélection de notre ami Roger. Vous êtes bien sur Canal B, c'est Plume et Pinceau qui continue comme tous les lundis entre 13h et 14h, une émission consacrée au 9e art.
Tout à fait, avec toujours en compagnie de Laurent, Joub et Nicobi. Alors, juste un petit mot, parce que je crois que vous en aviez déjà parlé, vous, Laurent, sur ce...
On l'a peut-être évoqué dans une émission qui était dédiée à l'éditeur Comics Initiative, dont je fais partie.
Voilà, qui s'appelle, intitulé Envie, un bouquin dont le parti pris scénaristique me plaît particulièrement, c'est que du coup, il est sans parole, pouf, et vous racontez l'odyssée de gamins là, qui partent de leur pays de misère, fauchés par la misère, sécheresse, la guerre et compagnie, toutes les sept plaies de l'Égypte qui semblent s'acharner sur ces régions-là, et qui finit après péripéties, par arriver en France. Comment vous avez été branchés sur ce bouquin-là, vous tous les deux, messieurs Joub et Nico ?
Eh bien, c'est une demande du comité entreprise d'EDF qui voulait un outil de médiation pour évoquer ce sujet avec le jeune public. Mais à la base, ça devait être un outil de communication interne à utiliser dans leur centre de vacances. C'est un gros réseau, hein, le CE2DF, le CCAS. Et ils avaient déjà fait un ouvrage avec notre camarade Laurent Lefebvre, que vous connaissez peut-être.
Un petit peu.
Mais qui était plus destiné à un public adulte. Plus des témoignages pour un public adulte. Donc là, c'était une nouvelle démarche. Et puis, le projet, partant sur ces bases-là, a un peu grossi au fur et à mesure, au point qu'il y a eu l'envie, au bout d'un moment, d'en faire vraiment un livre et de le mettre en circulation en librairie, quoi.
Et donc, ce parti pris là de faire un ouvrage, une histoire sans parole, comment vous avez eu cette idée-là et pourquoi vous avez développé ce concept-là ?
Je pense qu'ils avaient envie de toucher un public de gens qui lisaient pas, donc soit des jeunes, soit des gens qui venaient de l'étranger. Donc ça, c'était une contrainte qui nous était imposée. Donc on a bâti le scénario autour de ça. Après, on a été grandement aidés par des gens d'SOS Méditerranée qu'on a vite rencontrés. Je finis pas mes phrases. Et voilà, on connaissait vaguement le sujet, mais on manquait franchement d'informations. On les a vite rencontrés et eux nous ont à peu près raconté ce qu'on a mis dans le livre. Donc on privilégie plutôt la migration vers l'Europe via la Méditerranée, via la Libye, parce qu'il y a d'autres passages par Gibraltar ou par la Turquie, etc. Donc c'est plutôt cette traversée de la Méditerranée qui est mise en scène. On a découvert un truc dramatique, enfin c'est horrible, quoi. Enfin les gens qui sont sur notre continent, c'est juste des survivants, quoi. C'est des warriors. Donc et puis s'il n'y a pas toutes ces aides de SOS ou des pays qui accueillent, etc., c'est atroce. Donc voilà, puis c'est un livre qui a beaucoup d'écho et qui a plus d'écho que ce qu'on pensait. Donc on en est très content, très fier de ce qu'on a fait et très fier de l'accueil qu'il peut recevoir. Ouais. Ah.
Et il y a quand même à chaque fois une somme qui est reversée à SOS Méditerranée. Donc le bouquin, on a dit, il s'appelle Envie, mais en deux mots. Envie. C'est chez Comics Initiative. C'est paru en avril 2021. Et c'est vrai que, puisque j'étais un petit peu au démarrage aussi de ce projet-là, très lointainement, l'idée était aussi de pouvoir aborder ce sujet auquel on est tous confrontés. Il suffit d'allumer la télé au moment du 20h. Et beaucoup d'enfants prennent ça un peu pleine poire, des images de le petit Ilan noyé sur une plage en Turquie. Enfin, et souvent, il n'y a pas de réponse à ça. C'est comme si on mettait les enfants à distance de ces sujets-là. Or, ça fait partie de notre monde et de plus en plus. Et avoir un outil qui permet, un peu dans le modèle de Petit Poilu, si vous connaissez cette BD Petit Format, ou Sans Parole aussi, ça permet avec un papa, une maman, un enfant, enfin un adulte, un enfant, de regarder, de s'étonner, de se poser des questions et d'entamer un dialogue. On quitte jamais un pays par plaisir. Et là, on voit plusieurs histoires et les dessins eux-mêmes, la narration de la bande dessinée permettent d'aborder des sujets, de s'étonner. Plutôt qu'infliger des histoires réelles, c'est plutôt de suivre des parcours et d'entamer un dialogue.
Du coup, ça peut peut-être nous permettre de faire une transition sur Maroni, les gens du fleuve, parce que là, les gens, ils traversent peut-être pas la mer.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que il y a un parcours maintenant pour arriver en France qui passe par la Guyane.
Qui passe par la Guyane maintenant.
C'est-à-dire que là, à Cayenne, il y a plein de réfugiés syriens, etc. Donc il doit y avoir une facilité d'aller au Brésil en avion, etc., de passer assez facilement pas le Maroni, mais l'Oyapock, la frontière entre le Brésil et la Guyane. Et après, voilà, comment les gens vont revenir sur le continent européen, je ne sais pas. Mais ce parcours-là aussi, maintenant, passe par la Guyane. Voilà, une transition, par exemple.
Bah ouais, c'est très très bien, parce que moi j'ignorais ça totalement. En tout cas, ça ne les rapproche pas, parce qu'arriver en Guyane pour revenir en France, il faut vouloir.
Oui, je ne sais pas comment ils font après.
Ah ouais, purée. Ou alors ils vont aux États-Unis, j'en sais rien.
Non, parce que l'envie, c'est d'aller plutôt sur l'Europe. Ouais.
D'accord.
Bah, peut-être par les enfants nés sur le territoire guyanais, c'est-à-dire en France. Encore, hein. C'est comme Mayotte, quoi.
Non, mais là, pour l'instant, je pense qu'ils sont en demande de régularisation, de papiers, d'aide, éventuellement d'être rapatriés sur le continent européen, etc. Mais l'idée, de toute façon, c'est ça, c'est fuir et aller le plus loin possible, le plus rapidement possible. Mais voilà, ça peut amener à la Guyane au lieu de... Donc, il y a en France... mais pas sur le bon continent.
Il y avait ces fameuses lois de Dublin, que quand tous les pays européens se sont réunis à Dublin, c'est-à-dire très loin de la Méditerranée et des pays limitrophes, Gibraltar, Grèce, Malte, Italie, ils sont accordés à Dublin donc, pour dire que les pays qui devaient s'occuper des migrants devaient être ceux, le premier pays où ils arrivaient.
Voilà.
Donc, tout bonnement, s'ils arrivent en France par la Guyane, de facto, ils s'enregistrent là. Et c'est la France qui est chargée de s'en occuper. Donc je pense que ça peut aussi être cette fameuse histoire des lois de Dublin qui commence à être assez fameuse chez ceux qui doivent, je précise bien doivent, parce que c'est une fois de plus jamais par confort, plaisir, qu'on quitte tout pour partir avec une valise et les enfants à la main, quoi.
Alors en tout cas, du coup, puisqu'on parle de voyage, qu'il soit contraint ou qu'il soit volontaire, vous, Monsieur Joub, vous aviez fait le choix il y a quelques années de vous installer en Guyane. C'était il y a combien de temps ?
C'était il y a 10 ans, j'y suis resté 8 ans.
D'accord.
Voilà, j'y ai vécu, mais alors plutôt sur la côte, à Cayenne, etc. D'où les livres dont on a parlé tout à l'heure, parce que mon ami Nicobi est venu me rejoindre régulièrement, on a fait plusieurs livres, etc. Et il se trouve qu'il y a un bibliothécaire sur le fleuve Maroni, qui est l'autre fleuve important de Guyane, qui sépare le Suriname de la Guyane, donc à Maripasoula, qui organisait un festival autour de la culture, de la lecture et des arts traditionnels, un petit peu. Et donc voilà, j'y suis allé régulièrement, et en revenant d'une édition, j'ai dû mettre sur Facebook que c'était le meilleur festival du monde. Et une petite dizaine d'auteurs m'a demandé de le prouver. Donc ils étaient prêts à venir et le bibliothécaire s'est dit qu'il venait de faire sa programmation en une demi-heure. Et wow. L'année suivante, il nous a donc tous invités à faire ce périple. Et donc, pour changer, parce que d'habitude tout se passait à Maripasoula, là il avait décidé d'envoyer aussi les artistes dans les villages en amont de Maripasoula, donc dans le pays amérindien. Donc on s'est retrouvé à une quinzaine de personnes, les dessinateurs plus des artisans, des gens qui font de la science, etc. Dans les écoles, dans des petites écoles, dans des tout petits villages sur le fleuve Maroni.
C'est marrant parce que moi, si je peux me permettre d'intervenir, mon cher Roger, je vous coupe rapidement. Il m'est arrivé, en faisant du blablacar, de croiser une femme qui revenait de Guyane, qui avait été là-bas institutrice, justement. Et elle me disait, vous allez me le confirmer ou pas d'ailleurs, que finalement, il n'y avait pas du tout la même ambiance sur la côte, à Cayenne, etc., que dans les villages en forêt.
La Guyane, alors j'en parle comme spécialiste de la Guyane, ce que je ne suis pas,
mais mon expérience de... C'est encore vous qui avez la plus longue.
Mon expérience de vie, c'est que la côte, en fait, tout ce qui est en façade de l'Atlantique, c'est là que sont les plus grosses villes, c'est là qu'est le centre de tir de la fusée. Donc voilà, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, c'est là où se passe où il y a le plus de monde, en fait. Et puis après, c'est juste la forêt.
Voilà. Mais elle disait
pas la forêt vierge, mais
être instite sur la côte ou à côté des grandes villes, c'était plus difficile que dans la forêt. Elle est pas plus.
Alors
sûr,
après,
c'est
ça
plus
dépend de chacun. Moi, j'aurais beaucoup de mal à être là où on est allé, dans les villages où il y a rien. Enfin, c'est déjà 2 ou 3 jours de pirogue pour y accéder, ou 1 heure d'avion.
Et tout ça en France.
Quelques heures de pirogue pour aller dans ces villages-là. Dans les villages, il y a pas de commerce, il y a rien. C'est difficile de se loger. Quand on y va, c'est une expédition, c'est-à-dire qu'il y a 2 pirogues avec donc nous les invités, puis des cuisinières, les piroguiers, on emmène tout, la nourriture, les réchauds,
il y a même pas les hamacs, etc. Un PMU dans les petits villages.
Ah ben non, il y a pas un PMU, il y a rien.
Il y a un chinois, mais c'est un Suriname.
Je sais plus, c'est à Talouen, on a vu une poste là, ça, qui vient d'être. On a vu l'hélicoptère arriver pour amener le liquide, l'argent ou le reprendre, je sais pas. Enfin, c'est autre chose. C'est pas imaginable si on n'est pas allé là-bas. C'est loin, en fait.
Tout est loin.
C'est loin. C'est juste loin.
Et on se déplace pas aussi vite qu'en Europe. Effectivement, il y a que la voie maritime, enfin à travers les fleuves, qui est possible.
Bon, vous aimez bien ça, vous, le bateau, Roger. Vous êtes un marin.
Ouais, mais alors, comment dire, un truc qui me fait yesh, on va peut-être en reparler, mais c'est que déjà on peut plus y manger le poisson, même très très loin dans la jungle à cause des dégâts des orpailleurs. C'est quand même assez terrible, ça.
Oui, alors il y a deux orpaillages, il y a deux types d'orpaillage en Guyane. Il y a le légal qui essaye de respecter au maximum les normes, etc. Et puis surtout, il y a l'orpaillage illégal où là, les gens vont creuser un peu n'importe où, ils utilisent le mercure pollue toutes les rivières. Et dans tous les villages, il y a des panneaux pour indiquer que tel et tel poisson, faut surtout pas les manger. Donc il en reste très peu sur la liste, en fait.
Ah merde.
Et puis ce qui découle de ça, c'est qu'ils vont acheter en face, sur les comptoirs chinois, de la bouffe équivalent Lidl.
Congelée, quoi.
On ne sait même pas comment la chaîne du froid a été respectée. Donc voilà, il y a un côté malbouffe qui découle de tout ça et tout. Non, c'est assez particulier, assez dramatique. Ouais.
À tel point que quand j'ai vu Nicobi l'autre jour, quand on a préparé un peu, quand je l'ai invité avec Laurent, Nico nous dit les premières fois, je voyais surtout le côté exotique, etc.
Ah, c'est merveilleux. La première fois qu'on arrive là-dedans, c'est le jardin d'Éden, en fait. Ouais.
Et puis que par contre, cette fois-ci, la dernière fois que vous y avez été, pouf, vous n'aviez plus le même regard.
C'était la troisième fois cette fois-ci, mais dès la deuxième fois, en fait. Alors, le livre, il s'est vraiment construit sur le deuxième voyage. Et heureusement, je pense que c'était le bon moment pour le faire, parce qu'il y a encore un peu on est encore un peu envoûté par la magie du lieu, mais pas tout à fait dupe de tout. La première fois, donc, c'était merveilleux. La deuxième fois, c'était comme ça. La troisième fois, moi, j'ai juste trouvé ça assez déprimant, ouais, comme lieu, ouais, parce qu'on a le sentiment d'un truc qui est en train de disparaître, en fait. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là ? À quoi bon ? À quoi bon tout ça ?
À écrire un bouquin, par exemple.
Ouais, un témoignage. Vous le lirez sans doute comme en Paco. Vous verrez, il y a de très forts jolis témoignages, justement, même celui graphique, là, avec cet Indien qui disparaît, là, pouf. Et alors, du coup, qui vous a rejoint ? Puis comment ça s'est fait, les gens qui vous ont rejoint ? Il y a quand même une autrice, vous avez réussi à trouver une autrice, Kamikaze.
Non, on nous l'a imposé.
On vous l'a. Au moins, c'est clair.
C'est clair.
Au moins, c'est clair. On a donc trouvé parmi vous des gens suffisamment fous pour vous accompagner : Olivier Copin, Jean-Luc Cornette, Étienne Davodeau, Emmanuel Lepage. Ouais, grand voyageur, lui, il se promène beaucoup.
Ah ouais,
il y avait son beau serviette là-bas.
Thierry Martin, loin de ces neiges de Nancy, Aude Mermillot, Éric Sago, Terreur Graphique et Jean-Louis Tripp. Jean-Louis Tripp, des vieux monsieur. Il y a aussi des vieux monsieur dans tout ça.
Il adorerait qu'on le présente comme ça.
moi, je dis ça parce qu'il doit être un peu plus vieux que moi et je lisais déjà ce qu'il faisait. Oh, je vois bien avec la tête que vous lui avez fait, vous l'avez soigné aussi. Hein.
Il est beau garçon. Hein.
Parce qu'on n'a pas encore dit que c'est un album collectif.
Voilà, c'est un album collectif.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé donc dans ce voyage pour faire des interventions scolaires. Hein, c'est toujours ces projets culturels. Et dès qu'on avait 5 minutes, ou voire même pour Emmanuel Lepage, etc., on dessinait tout le temps. Et on en fait souvent des festivals où on est ensemble, etc., mais on ne sort pas les carnets à ce point-là. Donc en revenant de la première expédition, on s'est dit qu'on avait quand même beaucoup dessiné et que ce n'était pas fréquent qu'autant de dessinateurs soient sur un lieu identique. Donc on a eu envie de témoigner de ça. Et on s'est rapproché de Futuropolis et notre éditeur nous a dit que ça ne l'intéressait pas, les carnets de voyage. Et donc il fallait qu'on y retourne pour plutôt faire de la bande dessinée. Donc faire des témoignages, être plus dans le récit que le carnet de voyage. Donc il reste un tout petit peu de traces là sur les deux excellents aquarellistes qu'on avait, donc Manuel Lepage et Jean-Louis Tripp. Et puis on est reparti une deuxième fois pour aller plus justement creuser un petit peu plus le sujet et avec des regards différents. Donc ça va du témoignage de les pages de Nicobi qui témoignent un petit peu de l'expédition en elle-même, l'introduction d'Éric Sago par exemple, qui sont juste 15 pages de contemplation de ce que peut être le fleuve ou la forêt. Et puis après, voilà, chacun s'est emparé un peu soit de gens qu'il a rencontrés ou de témoignages sur la vie du fleuve qu'il avait envie de faire. Et voilà, ça fait et puis après on l'a structuré évidemment.
Ouais, parce que justement, comment éditorialement. Ça s'est fait ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont proposé plusieurs histoires et puis vous en avez gardé qu'une ou deux ?
On s'était déjà réparti de boulot avant d'y aller. Éric Sago, par exemple, on savait qu'il avait envie de dessiner le fleuve et tout ça, donc on s'était déjà dit que lui, il ferait un truc assez contemplatif. Puis après, on avait des intentions. Suivant ce qui est arrivé, on les a plus ou moins respectées. Et puis évidemment, au final, chacun a fait ses histoires. Et puis avec Jean-Luc Cornette et Nico et l'éditeur, donc on a structuré le livre pour qu'il y ait une certaine logique là-dedans. Tout ne se fait pas n'importe comment.
Bah, j'imagine.
Mais d'entrée de jeu, on avait identifié toute une série de thématiques qu'on voulait aborder et on a fait en sorte qu'on ne soit pas trois ou quatre à aborder les mêmes thématiques.
D'accord. Même s'il y en a une, pas la plus gaie d'ailleurs, qui revient dans deux ou trois histoires.
C'est le suicide peut-être.
Ouais.
Ouais. Bah, qui est très présent en fait quand on est là-bas.
Et de manière très métaphorique, j'aime bien l'histoire avec la petite fille qui refuse de se laisser couper les cheveux.
Ouais, bah d'où le regard féminin d'ailleurs. Là, c'est très bien aussi qu'on ait eu cette autrice parce que ça apportait quelque chose un peu différent aussi sur le regard. Le suicide et l'orpaillage, c'est deux sujets qui s'imposent quand on arrive là-bas. Donc on voulait aussi raconter au-delà de ça, pour ne pas rester dans le...
L'orpaillage, j'en avais entendu parler, j'espérais que ce ne soit pas aussi catastrophique, mais malheureusement vous me confirmez que c'est vraiment tout pourri jusque dans des zones les plus reculées. Et par contre le suicide, j'en avais jamais entendu parler, sauf par contre chez les Amérindiens d'Amérique du Nord, où effectivement force d'alcool...
C'est les mêmes problématiques, hein, c'est un décalage de culture, c'est... ils ont tous des portables, ils ont tous le modèle américain, ils ont tous le truc. Ils vivent jusqu'au collège à peu près dans un environnement qu'ils maîtrisent. Dès le lycée, ils sont envoyés sur la côte à Cayenne où déjà là, ils sont pas du tout intégrés, mal acceptés, etc. Ils retournent la plupart du temps après dans ces villages-là. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Donc il y a quand même, hein, des gens qui arrivent à notre piroguier et tout. Il a monté sa boîte de tourisme. Enfin, il fait des expéditions, etc. C'est un gars qui a vraiment réussi à développer son truc. Mais quand on va dans les villages, c'est surtout qu'on voit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a plus la chasse, parce que les orpailleurs aussi chassent pour nourrir les camps, donc il n'y a plus de gibier, les poissons sont pourris. Donc voilà, la bouffe est importée, les allocs, malgré tout, je ne sais pas si c'est bien ou pas que ça existe, mais en tout cas là-bas, c'est une des ressources qu'ils ont. Mais quand on va dans les villages, c'est vrai qu'on rien ne se passe, et puis il n'y a rien, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas... Donc il doit y avoir... quelques infirmiers, quelques instits, quelques piroguiers, quelques cantonniers, et puis après on cherche ce qu'il y a, en fait. Il n'y a pas...
Il n'y a pas d'autre avis.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu lourd, en fait, de voir ça, de se dire que c'est effectivement une population qui ne va pas durer très longtemps, je pense.
On s'écoute un petit Dix, comment dirais-je, après ces bonnes nouvelles.
C'est parti avec Killing Joke 80s, remixé par Vaudou. C'est du dub un petit peu sur les années 80. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Écoutez ça.
française.
Un petit Killing Joke écrit dans les années 80, et pourquoi pas, puisque le titre c'est 80s. Il disait We were born in the 80s. C'est un titre de notre jeunesse. Alors j'ai cette histoire de se rappeler qu'un jour on s'est connus dans les années 80.
Jeune et fringant.
Rue de Saint-Malo, on était beau et plein d'idées et plein d'énergie. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Plume et Pinceau qui consacre notamment le travail de Nicobi Joub, et aussi il y a aussi la présence de Laurent Lefebvre qui est ici. Moi je savais pas, mais j'ai vu que Joub, parce que je me fais ma petite recherche Wikipédia, et qu'est-ce que je vois, Joub est un dessinateur, il s'appelle Marc Legrand.
J'ai
pas dévoilé un secret.
Oui, je m'appelle Marc Legrand.
Il s'appelle Marc Legrand. Putain, mais c'est ridicule, Marc Legrand comme nom.
Non, c'est mon nom. Tu vois ça avec mes parents.
C'est pas de sa faute, mais méfiez-vous parce qu'il est quand même grand aussi.
C'est vrai qu'il est grand.
Alors Laurent s'est emparé du livre avec raison parce que on avait aussi pas envie de parler du traitement aussi de l'ouvrage.
Bah, on a parlé un peu du contenu, mais je voulais parler quand même évoquer un peu la forme de ce bon gros bouquin. Voilà, je toque dessus au micro, c'est un bon gros bouquin de 200 pages, avec une magnifique couverture, une aquarelle d'Emmanuel Lepage. Il y a pas mal de monde qui touche bien à l'aquarelle dans ce bouquin. Il y a vous déjà, Monsieur Joub, il y a Thierry Martin avec une histoire de chien.
Ah,
on n'a pas évoqué cette histoire de chien,
une espèce
de version guyanaise de l'appel de la forêt. Moi, je vois tout le parcours du chien qui va, et j'en dis pas plus, parce qu'il faut vraiment lire ça. C'est chez Futuropolis, ça fait 23 €, parce que je trouve que c'est bien aussi de rappeler... combien coûte un bouquin, mais formellement c'est vrai qu'on passe de temps en temps de pages de carnets de croquis, alors absolument magnifiques, où la couleur explose, c'est vraiment une ode à l'amour, à la jungle. La séquence contemplative qu'évoquait Joub de Eric Sago qui ouvre le bouquin, qui faisait Paco les mains rouges déjà, donc était familier de Cayenne et de l'île du diable avec son compère Fabien Velman. Et vraiment, voilà. Et il y a aussi beaucoup d'histoires où vous passez d'une équipe à l'autre. Vous, Monsieur Joub, vous avez fait la couleur pour l'histoire de votre ami Cornette, si je ne dis pas de bêtises. Donc on sent que chacun a mis un petit peu à la patte, la main à la patte, que les sujets ont été distribués. C'est pas ces collectifs où chacun travaille dans son coin. Et c'est un peu racorni, un peu façon patchwork, n'importe comment. On voit que malgré la diversité de style, de point de vue, c'est quand même concerté, travailler ensemble, et que ça donne vraiment plein d'aspects.
Livre de bande, hein. C'est un vrai livre de bande, c'est-à-dire qu'on n'était pas chacun individuellement sollicité par un éditeur pour faire une histoire qui aurait pour thème la Guyane. On était tous ensemble à décider de faire un livre, et ensuite on a été chercher un éditeur pour donner corps à notre envie. Enfin, c'est vraiment un livre de bande où on ne se marche pas sur les pieds, mais on marche tous ensemble.
C'est vrai, il existe parce que vous l'avez voulu aussi, ce bouquin. Vous avez cherché moyen
tout à fait,
qu'il existe.
Ouais.
C'est comme une carte postale, dans le fond comme dans la forme. On y est habitué, hein, que ce soit Fournier, le bouquin dans l'atelier de Fournier ou Daniel Fuchs. C'est souvent des histoires d'amitié. On sent qu'ils motivent l'envie pour vous de travailler ensemble, mais aussi les sujets sur qui vous allez. Mais là, c'est carrément, c'est une colonie de vacances, quoi.
C'est vrai. Ouais, bah c'est comme ça qu'on l'a vécu à le faire. Moi, j'en témoigne un peu avec des petites histoires qui mettent en scène la bande, justement, qu'on était sur le fleuve. Et qui, en tout cas, c'était notre intention, donne un petit lien à toutes ces pages. Et j'ai le sentiment que c'est à la fois un collectif et à la fois un livre, quoi, avec une seule intention, du début à la fin.
Avec vos petites histoires aussi, un peu en fil rouge, je trouve.
Ça
unit bien, on passe d'un univers à un autre avec votre... Et quelquefois, parfois, comme les histoires peuvent être assez tragiques, ouf, on retrouve votre trait, hop, on se dit, ouf, ça y est, pouf.
La rigolade.
Alors, on ne se dit pas franchement la rigolade, on dit, bon, ça va être plus... par exemple, l'histoire où vous refusez, vous avez les trouilles, je crois que c'est avec Monsieur Thierry Martin, vous refusez d'aller dans le village de voyous, et en fait, il ne s'est rien passé, ils vous ont raconté des conneries.
Je ne sais pas, ils ont acheté des tongs.
Il ne s'est rien passé parce qu'on est rentré à temps. non, mais c'est ça, on ne maîtrise pas forcément les codes sociaux et tout le...
Racontez-lui, Paco.
Je suis désolé, Roger.
Ah merde,
mais on est en train de dépasser les heures.
Juste, vous retrouverez ce bouquin-là avec une couverture qui pète rouge, le rouge de la rivière. Pourquoi ce choix de rouge? Ça fait penser à Aguirre ou la colère de Dieu, moi.
Voilà, je pensais aussi à un choix. Le marroni, il est assez marron. La forêt verte, voilà les couleurs
marroni
complémentaires. Maronasse. C'est le rouge, le vert. Ça
et là, il n'y a pas de sous-entendu, je dirais.
Il y a peut-être un côté un peu dramatique un peu aussi sur ce qui se passe, évidemment.
Ouais.
Maroni, les gens du fleuve, je rappelle le titre, chez Futuropolis.
Voilà, merci Roger, merci Nicobi, monsieur Joub. Désolé, on aurait pu rester je crois, une bonne demi-heure de plus à discuter de tout ça, parce que c'est vrai que c'est très très intéressant.
L'heure c'est l'heure, mais...
Bah oui, l'heure, c'est la radio, c'est comme ça.
Ben, oui,
c'est
je
comme
sais
ça.
Bien, je sais
vous voulez
bien.
Pas que je coupe quand même, que je fasse un montage ou je
l'ai un disque super.
Merci, au revoir.
Et bonnes vacances, puisque c'est les vacances quand
c'est
même.
C'est le dernier Plume et Pinceau de
ouais,
la saison.
Ouais, et on recommence voilà. En septembre avec notre ami Berrichon, qui va revenir, on l'entendra arriver avec ses sabots, le Berry mystérieux. Il a visité Loche, il a visité Montluçon, enfin il a été dans des tas de coins exotiques. Peut-être que ça pourrait faire matière à un
ouvrage.
Vous n'avez pas eu l'idée de louer un petit Carlo, une petite bagnole, un Carlo, vous parlez tous les deux dans le Berry mystérieux.
On peut pas faire tous les livres, il faut qu'il en fasse quelques-uns lui aussi.
Bon allez, à la prochaine fois.
À la prochaine
fois. Bonnes vacances. Salut.